fait, c'est comme si les arbres, ils mouraient un peu.
Moi, ma saison préférée, c'est l'automne. Il fait frais, mais pas trop.
C'est un peu un mix entre l'été et l'hiver.
C'est le temps de pause entre la chaleur et le froid. Plutôt de nuages au soleil.
Dans la rue, il y a moins de personnes qui vont se balader, vu qu'il fait moche.
C'est pas que ça me plaît pas, c'est pas que ça me plaît, c'est qu'en fait, ça m'intrigue un peu.
Moi, je trouve que c'est triste aussi. C'est un peu joyeux parce que les couleurs sont festives. Ça nous fait penser un peu à des confettis qui tombent un peu partout, comme à la fête.
L'automne, c'est un peu une période de somnolence. Et en fait, plus on se rapproche de la fin, plus ça devient froid, plus la nature ferme les yeux, en fait.
Que puis-je ajouter ? Ils en parlent si bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Barbatruc, le rendez-vous des parents. Bon, c'est aussi celui des grands-parents, des tantes, des oncles, et j'en passe. Notre sujet, que dis-je, notre terrain de jeu, c'est l'enfance. Et aujourd'hui, prenons l'air pour admirer l'automne avec les enfants. La saison des marrons et des champignons est lancée. Période de transition, les oiseaux migrateurs s'en vont, les animaux font des réserves. Les journées sont plus courtes et plus fraîches, et les couleurs surtout sont flamboyantes. Promenons-nous dans les bois et tâchons de trouver non pas le loup, mais les mille et une façons d'intéresser les enfants au grand spectacle de l'automne. D'ici trois quarts d'heure, vous retrouvez votre rendez-vous avec l'actualité du livre pour enfants « L'as-tu lu, mon petit loup ?» de Denis Chessou. C'est parti, observez l'automne.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Émission en partenariat avec Bayard Jeunesse, préparée par Mao de Butler et réalisée par Christophe Imbert. Selim Guéribi est à la technique et j'accueille deux invités. Un troisième nous rejoindra tout à l'heure pour parler notamment des champignons. Bonjour Clémentine Sourdet.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes autrice et illustratrice jeunesse. Vous avez publié il y a quelques années au Seuil Jeunesse ce très bel album qui est un peu notre petite encyclopédie pour l'émission du jour, un livre intitulé « Tout sur l'automne » co-signé avec Charline Picard. Il fait partie d'une collection de quatre livres. On y trouve aussi, je vous le donne en mille, « Tout sur l'hiver, tout sur le printemps et tout sur l'été » à découvrir à partir de 6 ans. Très beau bouquin pour répondre aux questions des enfants sur l'automne, pour piocher des idées d'activité aussi et pour s'émerveiller devant la beauté de la nature en automne. Vous avez publié aussi beaucoup d'autres livres et le prochain qui sort en librairie en novembre, mais que j'ai déjà entre les mains, ça s'appelle « La grande escapade ». C'est un livre randonnée, Clémentine Sourdet. Vous avez inventé un nouveau genre littéraire?
Alors, j'ai détourné un genre littéraire, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des contes randonnées. Donc moi, j'ai aussi beaucoup travaillé sur les contes et je suis une grande amoureuse de la nature. Donc la randonnée, moi, ça fait partie de ma vie. Depuis que je suis toute petite, je vais à la montagne, j'ai un endroit favori, un refuge. Et c'est un livre avec lequel j'ai envie d'emmener les enfants avec moi. Donc ça passe par un petit personnage qui s'appelle Brume, c'est une fiction. Elle a besoin en fait de prendre un temps de recul et elle va marcher seule dans la montagne. Donc c'est ses aventures, c'est les émotions, c'est les paysages dans lesquels elle va être portée, traversée. Et voilà, c'est ça l'histoire de ce livre.
C'est un livre en relief hein, dans lequel se cachent des animaux, des arbres, derrière des petits volets qu'il faut ouvrir. Il y a des découpes dans les feuilles, il y a beaucoup de volume et de pop-up. La nature est en majesté dans ce livre qui paraîtra donc en novembre, La Grande Escapade. Bonjour Laurent Tillon.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue, vous êtes biologiste, ingénieur forestier à l'ONF, Office National des Forêts, auteur chez Actes Sud de Être un chêne. Alors ce livre n'est pas pour les enfants, mais il nous a donné envie de vous entendre sur la façon dont on peut parler des arbres avec les petits et avec les ados et surtout se promener avec eux pour regarder les arbres. L'automne est-il votre saison préférée, Laurent Tillon ?
L'automne est ma saison préférée et de loin. Pourquoi ? Parce que c'est la période de la profusion. C'est la période pendant laquelle la nature donne absolument tout ce qu'elle a en magasin. C'est la période des champignons, c'est la période des fruits, notamment les fruits à coque. C'est en automne qu'on rencontre bien sûr les pommes, les poires, dans les vergers, en forêt, c'est l'occasion de trouver des champignons, de trouver des châtaignes, et puis tout un tas d'autres fruits, des noisettes par exemple, et encore bien d'autres. Là par exemple, tout dernièrement, depuis ce mois de septembre là, la pluie a favorisé quantité de mûres, et j'avoue qu'on se régale avec ma famille. On va cueillir les mûres, on en fait des tartes, on en fait de la confiture, et voilà, c'est la période vraiment fabuleuse pendant laquelle la nature donne tout ce qu'elle peut donner.
La tarte au mur, première idée de cette émission que je voudrais être un panier dans lequel on peut piocher des idées pour les promenades en automne. Laurent Tillon, dans ce livre « Être un chêne », vous parlez de votre arbre compagnon qui s'appelle Quercus. Est-ce que vous conseillez à tous les enfants d'avoir un arbre à eux ?
Je leur conseille d'autant plus que, pour ma part, cet arbre, il a changé ma vie pendant l'adolescence. Ça a été un arbre auprès duquel je me suis réfugié. La rencontre, elle n'a pas été immédiate. Elle a pris du temps. Il a fallu qu'on s'apprivoise. Et puis, à cette période qui peut être un peu compliquée, l'enfance, l'adolescence tout particulièrement, période pendant laquelle on se cherche, on cherche à trouver notre place dans la société, eh bien moi, c'est au pied de cet arbre que je suis allé me réfugier régulièrement. J'allais m'asseoir contre lui. Et puis finalement, en observant la nature qui m'entourait, j'ai trouvé ma voie. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, je suis forestier, je pense que c'est pas innocent.
Il n'était pas adolescent, lui, puisqu'il a 240 ans aujourd'hui, cet arbre.
Il avait déjà 210 ans, il était dans la fleur de l'âge. Alors là, en ce moment, en plus, c'est le plus grand de la forêt. Donc franchement, il a beaucoup à me donner et il va être là encore pour un bout de temps.
Est-ce que vous dites où est-ce qu'on peut le rencontrer ou c'est un secret ? Cet arbre, Laurent Tillon.
Je peux le dire, il est en forêt de Rambouillet. Par contre, il y a tellement d'arbres
voilà.
En forêt de Rambouillet.
Vous n'avez pas des infos plus précises, s'il vous plaît.
Je lance le défi, celui qui le trouvera sera vraiment très fort et peut-être qu'on se donnera rendez-vous au pied de Quercus.
Allez, un peu de musique avant d'entrer de plein pied dans cet éloge de l'automne. Sortez les boules à facettes, elles ne poussent pas dans les arbres. Voici Juliette Armanet, le dernier jour du disco.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau.
Dorothée Barba.
Vous écoutez Barbatruc, le rendez-vous des parents, et on se penche sur l'automne cette semaine. Observer la nature avec les enfants, la dessiner, jouer avec aussi, se promener bien sûr. Clémentine Sourdet et Laurent Tillon sont mes invités. L'une est illustratrice et autrice de livres jeunesse, l'autre est ingénieur forestier. Alors vous dessinez tous les deux des arbres. Quel conseil donneriez-vous à des enfants, Clémentine Sourdet? C'est compliqué hein, de se mettre dans la nature et d'essayer de dessiner un arbre.
En fait, moi, c'est...
Non, c'est pas compliqué?
Moi, je trouve pas du tout. Ah. Moi, c'est mon... Alors déjà, c'est quasiment mon geste du matin. Moi, je commence tous les matins pour rentrer dans mon travail de dessinatrice et d'autrice par dessiner justement un arbre ou une plante chez moi. Quand il pleut, j'ai un peu la flemme de sortir.
Tous les jours?
Tous les jours, ouais. C'est vraiment mon petit protocole pour rentrer à l'intérieur de moi. Alors, j'ai pas fait ça tout le temps, hein, mais mon premier souvenir en fait de connexion avec le dessin, il date de l'école maternelle. J'avais une institutrice qui était exceptionnelle. Et avec elle, en fait, on est sortis. Moi, je viens du sud de la France, donc on a dessiné les platanes qui étaient dans la cour. Elle nous avait donné des grandes feuilles, à peu près un format A3, en fait, avec un support. Et elle nous faisait ressentir, en fait, l'arbre depuis la base jusqu'au bout des branches. Et on était vraiment dans un travail de dessinateur, c'est-à-dire entre le ressenti, ce qu'on a devant nous, notre corps, en fait, et l'outil qui va tracer et marquer le papier. Et ça, c'est resté en moi depuis que je suis toute petite. Donc, le conseil que je donnerais, ouais, c'est un format assez grand, quand même, pour que le bras puisse s'élancer. Et de se poser en fait devant son sujet et de regarder dessiner, c'est souvent commencer par regarder et ressentir.
Vous faites des grands gestes, oui, du bas vers le haut. Il faut partir des racines et monter vers les branches.
C'est comme ça que je le ferai. Ça correspond à ma logique, ouais.
Laurent Tillon, c'est comme ça que vous dessinez votre arbre compagnon, ce quercus?
C'est aussi comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est changer de point de vue pour le dessiner. Ce que j'aime bien, c'est bien sûr prendre du recul, le regarder et puis essayer de lui donner forme. Donc de lui donner toute son architecture, d'être attentif à la branche qui a poussé de tel côté ou de tel autre côté. Enfin, souvent, notamment chez l'adulte, ce qu'on a du mal à retranscrire dans un dessin, c'est l'architecture de l'arbre. Mmh. C'est justement la manière dont il a pu pousser. Et en regardant les dessins de Clémentine, j'ai vraiment l'impression de voir l'arbre tel qu'il a poussé, tel qu'il a fallu qu'il prenne sa place. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de changer de point de vue en se mettant contre le tronc de l'arbre qu'on veut dessiner, et puis de lever la tête et de regarder les branches, le houppier, la manière dont ça s'est organisé. Et on comprend l'arbre d'une manière un petit peu différente. Puis en reprenant du recul et en le regardant à nouveau, on peut essayer de mener l'enquête et de comprendre pourquoi telle branche a poussé de telle manière plutôt que de telle autre manière. Probablement qu'il y a eu de la concurrence avec un arbre voisin qui a empêché à l'arbre de pousser de tel côté plutôt que de tel autre côté. Et c'est là que ça devient intéressant. Le dessin offre déjà l'opportunité de comprendre, mais en plus l'opportunité d'ouvrir complètement un nouvel angle sur le vivant et de laisser s'exprimer toute la beauté du monde vivant qui nous entoure.
Écoutons des enfants, si vous le voulez bien, au micro de Juliette Proutot. Notre reporter s'est promené dans les rues de Lyon pour parler automne et surtout pour parler couleur.
J'aurais dit que, en fait, la couleur de l'automne, c'est un peu la couleur du feu, parce que les arbres, ils se teignent de différentes couleurs, de jaune, d'orange, de rouge, un peu de marron aussi. Et du coup, ça me fait un peu penser au feu. Et aussi, c'est un peu le gris, parce que les nuages sont gris. Et il pleut assez souvent quand même.
Ouais, j'aurais dit plutôt les couleurs de l'automne, c'est du marron, du jaune ou du orange, aussi du rouge. Un petit peu de bleu, j'aurais dit, parce qu'il fait quand même froid. Oui, du blanc aussi pour les nuages et du gris aussi pour... voilà.
Il a des feuilles, des petits légumes. Et les feuilles, elles ont des couleurs belles parce qu'elles sont mortes, les feuilles. En fait, parce que aussi là, il y a du vent, donc ça fait l'automne.
Ça peut être jaune. Rouge, ça peut être vert, un peu, des fois, et ça peut être orange, des fois un peu orange, parce que quand il y a l'hiver, bah, il n'y a pas de feuilles, parce que après, les feuilles, après, il n'y a plus de soleil, donc après, ils sont mortes, les feuilles, donc après, ils tombent.
C'est mort, en fait, enfin, les arbres, il n'y a plus rien, mais ça va repousser après, mais c'est un entre-deux de... Enfin, ouais, c'est entre les deux, genre, il n'y a plus rien.
Parce qu'en fait, il fait froid et en plus, les feuilles, elles peuvent plus rester accrochées. Elles tombent. Parce qu'après, le printemps, elles repoussent.
Propos recueillis par Juliette Proutot en partenariat avec Bayard Jeunesse. Et j'en profite pour signaler le nouveau Poppy qui vient de sortir, magazine pour les enfants entre 1 et 3 ans. Un numéro spécial automne, tout plein de feuilles mortes et de marrons, mais aussi un dossier pour les parents sur un sujet ô combien sensible. Comment survivre à la période du non ? Des feuilles mortes et le non à tout bout de champ, c'est l'automne d'un enfant de 2 ans qui est ainsi résumé. Le nouveau Poppy du mois d'octobre est en kiosque. Clémentine Sourdet, qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient d'entendre ?
Ah, sur les couleurs et puis sur l'idée du cycle, en fait. Moi, c'est ça que j'ai trouvé très beau dans l'idée des enfants, parce qu'alors, par contre, moi, l'automne, c'est vraiment une saison que je n'aimais pas du tout.
Quand vous étiez petite.
Même jusqu'à récemment, je pense que c'était aussi...
Erreur de casting d'invité, là.
Non, pas du tout. C'est juste que, pour moi, c'était compliqué, en fait, de quitter l'été, de quitter la chaleur, de quitter la légèreté. Finalement, c'est aussi le retour aux activités quotidiennes. Un rythme qui est très différent, en fait, de la grande plage de liberté qui est laissée par l'été. Et pour moi, ouais, il y avait cette idée de fin aussi. Et du coup, dans l'idée de concevoir ces livres-là, il y avait l'idée de comprendre, en fait, et de saisir à la fois la beauté du cycle et puis comment et pourquoi est-ce que les choses se passent. Et je trouve, dans ce qu'on dit les enfants, il y a une observation qui est assez fine, en fait, et cette idée du cycle, pour moi, elle est vraiment importante.
Donc, c'est en travaillant sur ce livre, Tout sur l'automne, que vous vous êtes réconciliée avec l'automne.
Ouais, exactement.
En dessinant des feuilles.
Il y avait l'idée de découvrir, en fait, le monde du vivant. C'est vrai que moi, j'ai grandi en ville et cette espèce de transmission, elle a pas forcément eu lieu quand j'étais une enfant, et arrivée à l'âge adulte, il y avait vraiment une méconnaissance, en fait, du monde qui m'entourait, donc j'étais un peu vexée des fois quand je discutais avec d'autres gens, et j'ai choisi vraiment de prendre le temps, en fait, de comprendre le vivant. Ça a été un prétexte, en fait, d'apprentissage et aussi un territoire de jeu, de dessin, voilà, d'observation dont on parlait tout à l'heure avec Laurent.
Laurent Tillon, comment vous expliquez le cycle des saisons à un enfant ?
Dans ce que disait Clémentine, il y avait un élément qui était important, c'est le côté cycle, le côté de l'automne qui, dans nos contrées, est un passage obligé. Mais sauf que, on pourrait le prendre comme une sorte de fin, comme une sorte d'avancée vers la mort de l'arbre, vers la mort de la nature, vers la mort de la forêt. Moi, je le vois pas du tout comme ça. C'est la période de production de tous les fruits forestiers, mais c'est aussi la préparation du printemps qui va suivre. Alors, on s'y prend très tôt. Attention, on est à l'automne, on est aux portes du mois d'octobre, donc aux portes de la période du changement de couleur, justement, dans les forêts. Chaque essence forestière, chaque espèce d'arbre va changer de couleur en fonction de ce qu'il est lui-même. Un hêtre va prendre une couleur très rousse. Un charme va plutôt être dans les jaunes au début, et puis progressivement, il va aller vers les oranges. D'autres essences vont rester un peu dans le vert. Des taches marron vont apparaître. Mais tout ça, c'est le signe de la perte de la chlorophylle chez les feuilles et de la production de certaines molécules qui, du coup, sont mises en avant. Les feuilles tombent et elles doivent attendre le cycle printanier suivant pour commencer à se dégrader et qu'ainsi soient restituées toutes les molécules constituantes des anciennes feuilles qui vont servir d'alimentation pour l'arbre en devenir, qui va devoir continuer à croître et trouver des oligoéléments, des minéraux, tout un tas de nutriments dont il va avoir besoin pour sa croissance. Donc c'est vraiment le retour du cycle.
N'est pas morte, en fait.
Les feuilles mortes, en fait, sont des brins de vie en devenir pour l'arbre qui les a largués la saison passée et qui vont lui permettre de continuer à grandir encore. Ce qui est intéressant dans cette histoire de cycle, c'est le fait que l'arbre lègue quelque chose qui va être de toute façon réutilisé pour lui-même et par l'ensemble de la forêt et tous les organismes qu'il compose. En fait, chaque élément fait partie d'un grand tout.
Barbatrix sur France Inter.
Le samedi à 15h. I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. Time hurries on. And the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. Once my heart was filled with the love of a girl. I held her close, but she faded in the night. Like a poem I meant to write. And the leaves that are green turn to brown.
together with the wind, and they crumble in your hand. I threw a pebble in a brook and watched the ripples run away, and they never made a sound, and the leaves that are green turned to brown. With the wind, and they crumble in your hand. Hello, 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 hello. Goodbye, 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 goodbye. That's all there is, and the leaves that are green turn to brown.
Simon & Garfunkel sur France Inter. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. Observer l'automne avec des enfants. Laurent Tillon qui a écrit un livre sur son arbre compagnon, Être un chêne chez Actes Sud. Et Clémentine Sourdet, autrice, illustratrice qui aime dessiner des arbres et à qui l'on doit Tout sur l'automne. Très bel album jeunesse édité au Seuil sont mes invités. Et on va accueillir un troisième invité à présent, parce que quand on se promène en forêt, il faut lever le nez en l'air, vous le disiez, pour admirer les arbres, mais ne pas oublier aussi de regarder par terre. On marche sur un monde fascinant. J'accueille à distance Francis Martin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste, Francis Martin, responsable du laboratoire d'excellence arbre à Nancy, laboratoire de l'INRAE. Comment expliquer le sous-sol aux enfants et aux ados quand on marche avec eux en forêt? Sans doute a-t-on besoin d'un mot qui leur parle beaucoup, c'est le mot réseau.
Réseau, réseau de champignons, mais... Tous ces champignons, ceux qu'on ramasse à l'automne, en fait, c'est des émanations de la terre humide, mais surtout, c'est l'émanation d'un réseau de filaments microscopiques invisibles qui parcourent le sol. C'est ça qu'il faudrait faire découvrir aux enfants, c'est qu'ils soulèvent les feuilles mortes, qu'ils grattent, qu'ils se salissent les mains pour qu'ils découvrent ces petits filaments ouateux, des petits, comme des fils de coton blanc, qui sont en train de coloniser la litière, coloniser l'humus, et qui en même temps sont connectés à ces fructifications, à ces fruits de la terre que sont les champignons.
Voilà, vous employez le mot connecté. Il y a un parallèle à faire finalement avec les réseaux sociaux, avec Internet, Francis Martin.
Je pense que parfois on a tendance à être un petit peu anthropomorphique, et qu'il y a beaucoup d'auteurs qui parlent d'un Internet souterrain, que il semblerait que tous les arbres soient connectés les uns aux autres. Le réseau souterrain d'un champignon, celui qui colonise le sol, qui colonise la litière, il peut être connecté, ancré sur le système racinaire de plusieurs arbres, au même moment et en même temps. Donc oui, on peut parler d'un réseau. Maintenant, de là, imaginez que toute la forêt est interconnectée par ce réseau de champignons, c'est probablement un peu excessif.
Voilà, mais c'est quand même une façon d'expliquer aux enfants que le sol, le sous-sol, c'est un écosystème immense et qu'on ne soupçonne pas forcément.
Absolument, c'est le bon moyen de leur montrer que tous les êtres vivants de la forêt sont liés. Il y a des alliances qui sont tressées entre les arbres et les champignons, entre les différents champignons, les champignons qui sont symbiotiques, c'est-à-dire qui tressent une alliance à bénéfice mutuel avec les racines. Les champignons apportent aux arbres des éléments nutritifs, les oligo-éléments qu'évoquait tout à l'heure Laurent, et puis l'arbre va donner en rétribution de ce travail de prospecteur et de mineur que le champignon assure, l'arbre va lui donner des sucres. Et puis, il y a l'autre réseau de champignons qui est extrêmement important, c'est tous ces champignons qui décomposent, qui dégradent les feuilles mortes, qui dégradent les branches, les souches, les arbres morts. Et ces arbres, en fait, vont transformer la matière morte en matière vivante pour les futures générations de champignons, mais également d'arbres. Ils vont entretenir la fertilité du sol.
Cette odeur de décomposition que vous évoquez, Francis Martin, elle est agréable, le mot est pas forcément évident,
j'adore ce moment de l'année où on rentre en forêt, l'atmosphère est extrêmement humide, il y a des effluves extrêmement puissants, Je crois que pour les enfants, c'est un moment rêvé. Il y a quelques semaines, j'avais la chance d'avoir mes trois petits-enfants à la maison, Pierre, Laurent et Thibault, Pierre, Lucas et Thibault, et
je les ai emmenés chercher des champignons. Vous ne trompez pas sur les noms des petits-enfants, s'il vous plaît.
C'est la catastrophe. Pierre, Lucas et Thibault, je les ai emmenés faire la chasse aux champignons.
Ouais.
Et effectivement, début août, dans les forêts lorraines, on a eu une explosion, une poussée extraordinaire de trompettes de la mort. Alors, comme ça, le champignon a un nom un petit peu dramatique, mais en réalité, c'est un champignon extrêmement délicieux, comestible. Et emmener les enfants, emmener les petits-enfants en forêt à la chasse aux champignons, ça les a excités, ça les a amusés de façon extraordinaire.
Alors attention évidemment à ne pas ramasser les champignons sans s'y connaître vraiment, en tout cas pour les consommer. On peut se contenter de les regarder aussi, Francis Martin, les champignons. Est-ce que vous avez des conseils aux enfants qui seraient curieux ou curieuses pour mieux voir les champignons ?
Il y a un champignon qu'il faut absolument voir, éventuellement dessiner, c'est la fameuse Amanite tumouche. Ce champignon qui a une forme de parasol, dont le chapeau est rouge, avec des petites taches blanches. Vous savez, c'est le fameux champignon de Tintin. Eh bien, je trouve que c'est vraiment le champignon emblématique, le champignon iconique. Il faut leur apprendre à dessiner ça. En plus, s'ils sont observateurs, parfois, il y a des crapauds et des elfes qui sont assis sur ce champignon.
Des elfes.
Absolument.
Bien sûr, évidemment.
J'en ai vu.
Clémentine Sourdet, vous en faites des gâteaux, vous, je crois, de ces amanites.
Oui, c'est vrai que dans le livre, il y a plusieurs parties en fait différentes. Il y en a une aussi sur le quotidien, sur les petites choses en fait qui font aussi la vie. Et on propose de jouer, de s'amuser avec la forme de ces champignons en faisant des gâteaux qu'on va sculpter en fait et décorer, voilà, à l'image de l'amanite.
Ouais. Voilà, c'est un champi-pomme, donc un gâteau aux pommes en forme de champignons.
Oui, parce qu'il faut vraiment un équilibre alimentaire. Donc nous avons ajouté des fruits, tout à fait.
Voilà, page 57 de Tout sur l'automne, la recette de champi-pomme. On pourra mettre peut-être la recette de ce gâteau sur notre site internet.
Avec plaisir.
À la page de Barbatruc. Francis Martin, dites-moi, dans quelle forêt vous promenez-vous précisément autour de chez vous, région Grand Est ?
On est à une heure de route du massif du Donon.
Mmh.
Et donc là, c'est un endroit magnifique, c'est le piémont des Vosges. Donc hêtre, chêne, sapin, épicéa, tout ça, ça forme des forêts mixtes, extrêmement colorées, magnifiques. Et en même temps, cette diversité d'essences d'arbres va favoriser la diversité de champignons.
Et quel est votre champignon préféré ?
Oh, ça reste la girole, la chanterelle jaune, couleur abricot, avec un petit parfum extraordinaire. Mais elle se fait rare, en fait, dans nos régions.
Extraordinaire dans l'assiette ou à observer dans son milieu naturel ?
Je trouve qu'elle est magnifique, elle a une jolie forme. Elle est très élégante avec ses plis sous le chapeau, et puis elle a cette couleur orangée. Et quand on se promène dans le sous-bois, souvent un peu sombre, on a l'impression d'avoir un petit soleil. Et là, on file et on en ramasse une poignée. Alors, quand on rentre à la maison, ça fait des fricassés assez extraordinaires.
Laurent Tillon, vous confirmez, c'est un petit soleil, ce champignon.
C'est un petit soleil. Et puis, ce champignon a une odeur particulière. Mmh. La présence de la chanterelle, c'est une odeur de décomposition sucrée qui invite, au contraire, à la consommation et au partage.
Et Clémentine Sourdet va nous en faire des gâteaux, bien sûr.
Voilà, exactement.
Très probablement.
Merci beaucoup, Francis Martin. Vous avez publié chez Humaine Science un livre qui s'appelle « Sous la forêt, pour survivre, il faut des alliés ». Merci beaucoup d'être intervenu dans Barbatruc. Bonne journée et à
bonne
bientôt.
Bonne promenade.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Tenez, puisqu'on parle de champignons, je vous signale la sortie en librairie cette semaine de ce très joli bouquin qui s'appelle « Charlie et le champignon » de Julieta Canepa et Pierre Ducrozet, illustré par Amélie Patin. Je montre ce livre à mes invités, il est de toute beauté, avec des couleurs vives, presque fluo. Le grain des pages et la couverture est un bonheur pour les mains. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Charlie, qui se promène au Jardin des Plantes à Paris et qui soudain devient minuscule. L'herbe pour elle est une jungle et elle va découvrir donc les secrets de cet immense réseau qui est caché sous la terre. Charlie et le champignon appartient à une collection éditée par le Muséum National d'Histoire Naturelle, les Contes du Muséum, vivement recommandé par Barbatruc. On y trouve aussi un conte de Karine Thuil et un autre d'Éric Orsena qui s'intitule « Marcel et le petit rhinolophe ». Vous savez bien sûr, Laurent Tillon, ce qu'est un rhinolophe.
Un rhinolophe, c'est une petite chauve-souris extraordinaire au pouvoir de super-héros, mais qui ne fait que 5 à 6 grammes.
Et vous dessinez aussi les chauves-souris dans votre bouquin, d'ailleurs.
Ouais, d'ailleurs, je dois dire que l'un de mes péchés mignons, c'est l'observation des chauves-souris à la tombée de la nuit.
Mais on ne les voit pas.
Mais on les voit pas mal. Quand on ne sait pas les chercher. On les voit assez mal. Et c'est des animaux qui sont pleins de mystères, comme des fantômes d'ailleurs, qui vont ensuite gagner la forêt. Et ça fait partie de mon travail, de les étudier, de les inventorier, de comprendre leurs interactions avec le milieu forestier. C'est des animaux passionnants.
Voilà, ce conte d'Éric Orsenna raconte l'histoire de Noé qui a 12 ans et qui décide de devenir avocat des espèces menacées. Les contes du muséum recommandés à partir de 7 ans, disons. Et je rappelle que tous les conseils de livres ou autres qui sont donnés au fil de cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceinter.fr à la page de Barbatruc. C'était Métronomie sur France Inter. Nous parlons de l'automne dans Barbatruc avec le biologiste Laurent Tillon, fin connaisseur des arbres, et avec Clémentine Sourdet qui les dessine avec talent, autrice et illustratrice jeunesse. Un conseil numérique pour vos balades en forêt. On a le droit de couper complètement les écrans quand on se promène dans la nature, c'est même recommandé, mais parfois la soif de connaissance appelle des réponses. Je vous conseille cette application qui s'appelle Clé de forêt à télécharger gratuitement sur votre téléphone intelligent. C'est une appli proposée par l'ONF, l'Office National des Forêts, pour apprendre à observer les arbres, les empreintes d'animaux et les silhouettes de rapaces. Alors si je suis devant un arbre, j'ai testé, l'appli me demande si ses feuilles sont à bord lobé, à bord denté ou à bord lisse, avec des petits dessins explicatifs, c'est sympa de sa part. Et en me laissant guider, je découvre que je suis devant un chêne sessile, par exemple, c'est le roi de la forêt française. Quercus petrae pour le nom scientifique. L'application s'appelle Clé de forêt. Vous recommandez évidemment Laurent Tillon.
Je ne peux que recommander. Et puis ça traite à la fois des arbres, à la fois des animaux qu'on peut aussi observer au détour d'un chemin. Et notamment ça vous permettra d'identifier les traces d'animaux. Pourquoi pas de reconstituer un petit peu le chemin et l'histoire qui se cache derrière chacune des traces. Donc vraiment, je vous recommande de l'avoir avec vous, parce que notamment quand on se promène avec des enfants, à un moment donné, on peut être surpris par la question. Mais à quoi correspond cette trace?
On a le droit de dire « je ne sais pas » aussi.
On a le droit de dire « je ne sais pas ». Mais du coup, vous avez quand même des éléments de réponse avec cette application.
Vous savez qu'un jour, en me promenant dans un parc, j'ai vu un arbre qui dansait. J'ai eu l'impression, en tout cas, que le tronc de l'arbre était une jambe et que la première branche, la branche la plus basse, était son autre jambe et que ce danseur ou cette danseuse levait très haut la jambe. ça a été presque une apparition, je dois dire. Alors je me suis mise à regarder tous les arbres comme des danseurs ou des acrobates, et ça marche souvent. Pour peu qu'on regarde les arbres avec cet œil-là, en cherchant la danse, on la trouve. Clémentine Sourdet, vous cherchez la danse dans les arbres ?
Pas que dans les arbres, parce que le mouvement pour moi c'est la vie, et je suis aussi une passionnée de danse, de chorégraphie. Effectivement, je cherche le mouvement parce que souvent, peut-être que mon cerveau, il a tendance à penser que cette forme est strictement verticale, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et du coup, je cherche ça, et puis moi, je dessine tout le temps penché. Je suis quelqu'un d'un peu penché. Donc, de toute façon, mon dessin, entre l'intention de départ qui serait de représenter de manière photographique ce que j'ai devant les yeux et ce qui advient, en fait, comment est-ce que mon corps, ma sensibilité, en fait, transforme tout ça. Après, moi, je suis obligée de l'accompagner. Et du coup, ça, en tout cas, ça danse et c'est penché.
Et ouais. L'horizon penche aussi.
Oui!
C'est un peu comme chercher des formes dans les nuages, hein. Si on les cherche, on les trouve.
Exactement, et c'est vraiment comme ça que je vois le monde. C'est entre le principe de réalité et la soif de connaissance. C'est vraiment la démarche scientifique m'intéresse énormément, et aussi la magie et le mystère de ce que je ne connais pas et de ce que j'imagine autrement. Moi, je fais un mélange en fait de ces deux choses.
Allez, on va retourner dans les rues et dans les parcs de Lyon, chez vous, Clémentine Sourdet. Juliette Proutot, notre reporter, a demandé à des enfants de nous parler des charmes de l'automne, et la discussion très vite est devenue pratico-pratique, inventaire des activités de saison.
Bah, en automne, pour commencer, moi, ma sœur, elle adore la chasse aux escargots. En fait, on a une maison de vacances en Haute-Savoie qui est à mon arrière-grand-mère. Et il y a des rochers, souvent il pleut, et du coup, après, il y a un grand jardin. En fait, c'est un jardin qui fait tout le tour de la maison. Et du coup, on va chercher des escargots dedans, il y en a des gros et des petits, c'est trop marrant. On peut par exemple ramasser des marrons, des feuilles mortes, et puis avec on fait comme des tableaux. Par exemple, on peut faire avec quelques marrons qu'on met en cercle, et on rajoute plein de petites feuilles mortes autour, ça peut faire un soleil et nous rappeler un peu l'été.
Bah moi j'aurais dit comme activité à faire dans la ville. Par exemple, chez moi, juste en dessous, on a un parc de jeux, et du coup il y a des fois les jeux ils sont mouillés. Et du coup, il y a des fois, bah, on peut jouer à s'éclabousser, par exemple. On prend l'eau qui est sur les jeux et on éclabousse les autres. Moi, j'aime bien sauter dans les flaques d'eau.
Puis en automne aussi, il fait froid, puis il y a sauté dans les flaques d'eau avec des bottes. Je plaisse. Moi, j'aime bien ça parce que, en fait, c'est rigolo parce que on a l'impression d'écrabouiller quelque chose. Et ça, c'est marrant. De ce côté-là. Et puis aussi, il y a le côté je fais une bêtise. Et ça, c'est assez marrant.
Mais j'ai compris qu'il fallait plus le faire. Ça nous éclabousse.
Parce qu'après, ça salit les vêtements.
Moi, quand j'étais en moyenne section, quand on trouvait un marron, il fallait le prendre et après il fallait le donner à la maîtresse.
Bah des marrons et on en faisait griller des fois. Et pas des marrons, des petits, les petits, je sais plus comment on appelle ça. Ouais, des châtaignes aussi, c'est bon.
C'était de mettre le plus de tas de feuilles et de sauter dessus.
Moi c'était des marrons parce que je trouvais ça hyper lisse et tout, et j'en mettais plein mes poches.
Très bel inventaire donc d'activités à faire en automne. Autre idée, Laurent Tillon, l'herbier, évidemment, collecter des feuilles en forêt et les coller sur un cahier. Vous avez des conseils à donner aux enfants peut-être ?
Eh ben, dans un premier temps, vous allez ramasser effectivement des feuilles. Alors, essayez de voir si elles sont quand même suffisamment bien préservées, si elles sont en train de se déliter. Ça va être un petit peu plus délicat, mais vous les récupérez. Puis après, vous les mettez dans un annuaire. Alors, avant, on profitait des annuaires téléphoniques, ces bouquins épais qui permettaient de bien tasser les feuilles. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Cela dit, vous pouvez les mettre entre des feuilles. Et puis, des feuilles de journaux, par exemple, ou d'autres feuilles de cahiers. Et puis vous allez poser par-dessus deux ou trois encyclopédies, un dictionnaire par exemple.
Ah, mais il faut les aplatir.
Et de manière à bien les aplatir, et après vous allez les récupérer et vous pourrez les coller. Mais ça c'est bien de le faire si en même temps vous associez une petite lecture encyclopédique, de manière à identifier chacune des espèces dont vous avez ramassé les feuilles, et puis essayer de comprendre un petit peu voilà, le caractère de l'arbre, voilà, le caractère de la feuille, et ça va être très enrichissant.
Là,
puis
c'est,
ça va...
là c'est le naturaliste hein, qui parle. Il là, faut à côté de chaque feuille mettre le nom de l'espèce, le nom de l'essence de l'arbre.
Exactement. Mmh. Et puis quand même, regarder un peu la beauté aussi offerte par la nature avec toutes ces formes différentes et puis toutes ces couleurs différentes.
Certaines feuilles sont plus fragiles que d'autres.
Alors certaines feuilles sont plus fragiles que d'autres, et puis en les observant bien, vous allez constater que certaines d'entre elles sont très épaisses, sont beaucoup plus dures, beaucoup plus coriaces que d'autres, qui sont beaucoup plus légères, dont le moindre frottement avec un autre objet pourrait les déchirer. Et il vous resterait un peu que les nervures. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut être particulièrement attentif et être délicat. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez amusant avec les enfants, c'est que quand vous commencez à leur dire « attention, cette feuille est relativement délicate », alors ils vont y prêter beaucoup d'attention, et même les enfants qui pourraient avoir un comportement un peu brutal au quotidien vont faire preuve d'une attention que souvent on ne leur soupçonne pas. Voilà, faire un herbier, être attentif à ce qu'on peut ramasser dans la nature pour ensuite les collecter et apprendre finalement à décrire la nature qui nous entoure, et ben c'est une activité vraiment pour tous les enfants, quels qu'ils soient, quel que soit leur caractère.
Et pour reconnaître l'essence de l'arbre et de quelle feuille il s'agit, il y a bien sûr cette application de l'ONF dont on parle, les clés de forêt.
Et on peut donc aller effectivement vers clé de forêt, à la fois pour l'identifier en forêt, et puis même une fois qu'on est à la maison, une fois qu'on la colle sur un cahier pour faire l'herbier, ben là c'est très facile de retrouver l'essence.
Alors l'herbier peut avoir effectivement une vocation naturaliste, mais ça peut aussi permettre de laisser galoper l'imagination et la créativité, Clémentine Sourdet. On peut les peindre, ces feuilles par exemple.
On peut les peindre, on peut les associer, on peut associer aussi du coup avec les petites élytres, tout ce qu'on peut trouver en fait par terre, pour un peu, comme ce qu'on se disait tout à l'heure, quand on regarde les formes des nuages, réinventer en fait soit des animaux, soit tout plein de choses, en fait tout
des
un petit monde.
Mmh.
Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup d'activités à faire. Enfin, et on peut faire un bouquet. Moi, je sais que mes enfants ramassaient d'innombrables feuilles par terre et elles en faisaient des bouquets. Voilà, bon, qu'il fallait ramener à la maison. Moi, j'étais un peu moins contente, mais en tout cas, elles, ça leur procurait beaucoup de joie.
Cet art-là porte un nom. Ça, c'est le Land Art.
Ouais.
On peut inviter les enfants et leurs parents à aller voir le travail, notamment de Andy Goldsworthy, qui est un artiste britannique qui pratique le Land Art. Il crée des œuvres éphémères, le plus souvent avec ce qu'il trouve dans la nature et toujours en respectant la nature. Autre idée pour agrémenter vos promenades en forêt en automne, un bingo nature. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le principe est très simple. On décide, avant de sortir en famille, quels sont les trésors à trouver ce jour-là. Un marron, une feuille de chêne, un petit caillou, un gros caillou, une pomme de pin, une branche, etc. On peut aussi procéder par couleur, trouver des trucs verts, des trucs rouges, des trucs marrons. Chacun son petit sac ou son petit panier. Et le premier ou la première qui a trouvé tout ce qui était prévu crie... Bingo, évidemment. Le bingo nature. Vous validez, Laurent Tillon ?
Je valide. Alors, je le pratique avec ma fille. Et jusqu'à maintenant, par contre, je ne savais pas qu'il fallait dire bingo à la fin.
Mais
on se donne des défis, justement, nature. Et notamment quand elle a pas forcément la motivation pour aller se promener en forêt.
Ah.
Eh ben, on se lance des défis, justement. Aller ramasser des choses qu'on va ramener à la maison pour en faire quelque chose. Une œuvre ou n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est l'occasion de se motiver pour aller en forêt.
Voilà, on ne sort pas pour rien.
Exactement.
Ça aide à motiver les enfants.
Voire des objectifs.
Quel est le plus beau trésor que vous ayez trouvé en forêt lors de ces sorties défi nature ?
Et ben finalement, c'était des traces. Des traces d'animaux, notamment une biche avec son faon et qui a croisé d'autres animaux un petit peu plus loin, parce que ça a été l'occasion de se raconter des histoires.
Ah.
Voilà. Et on a essayé de mener l'enquête pour savoir qui ils étaient, d'où ils venaient, où ils allaient et pour faire quoi. Et alors là, ça nous a pris un bon paquet de temps, une après-midi.
Alors là, vous trichez, parce que vous êtes évidemment ingénieur agronome, forestier professionnel, vous êtes un papa en or pour ça, pour les promenades dans la forêt.
Eh bien, je vais vous dire, pour cette activité, il n'y a pas besoin d'être spécialiste.
Ah.
Il suffit juste de guetter la première trace et puis après d'imaginer l'histoire. Et je peux vous dire qu'on était finalement dans cette histoire assez éloigné de la réalité biologique du comportement des biches et des cerfs.
Vous diriez que l'automne, c'est la meilleure des saisons pour montrer, pour rappeler aux enfants leur lien avec la nature, pour les mettre en contact avec elle ?
Ce qui est très appréciable avec l'automne, c'est que c'est la période pendant laquelle tous les sens peuvent vraiment être en alerte. C'est une période assez facile finalement. On peut se promener en forêt très facilement, sans trop souffrir de la chaleur par exemple. ni de la pluie, parce qu'il pleut pas tant que ça finalement à l'automne. Là, en octobre, novembre, ça va être normalement relativement doux. Mais en plus de ça, il y a des odeurs. Il y a des couleurs. On peut toucher assez facilement des objets qui sont tombés des arbres qui étaient inaccessibles. Les feuilles, par exemple, les fruits. Et donc, c'est l'occasion de mettre tous ces sens en alerte et de développer tout un imaginaire autour de la nature.
Alors, on a beaucoup parlé de la forêt aujourd'hui, mais vous avez aussi créé un jardin de rue, je crois, chez vous à Lyon, Clémentine Sourdet.
Exactement.
La nature en ville. Comment va-t-il, ce jardin, en ce début d'automne?
Là, il était très beau cet été. Merci la pluie, merci beaucoup avec les alternances de chaleur. On a rencontré une association que je trouve extraordinaire à Lyon, qui s'appelle Des Espèces par Million et qui est tenue par des jeunes. Leur objectif, c'est vraiment de recréer en fait le territoire de toutes les espèces sauvages endémiques qui étaient là depuis très longtemps en fait à Lyon. Donc du coup, de leur recréer un territoire pour lutter contre l'envahissement en fait urbain et que ces espèces reviennent puisque c'était leur territoire.
Et l'automne va s'installer dans ce jardin partagé.
Exactement. Donc ça va être plutôt parce qu'on parlait de la forêt, on a oublié de parler des cabanes parce que moi j'adore les cabanes. Et voilà, pour nous ça va être l'occasion de construire, surtout avec des bambous puisque j'ai une amie qui a un jardin à l'extérieur de Lyon et qui a beaucoup beaucoup de bambous. Et je pense qu'on va faire tout plein de constructions, de treillis. Et j'aimerais faire aussi comme un espèce de petit igloo. L'idée c'est que cet endroit ce soit un endroit positif et c'est un endroit qui est dans la rue, donc n'est pas uniquement pour nous, en fait, les gens qui participons à ce projet collectif, il est pour tout le monde. Donc, on construit des bancs, c'est un endroit qui est vivant.
Un igloo cabane.
Ouais, voilà.
C'est formidable. Allez, on va à présent écouter les précieux conseils de Denis Chessou, qui surveille l'actualité du livre pour enfants. Au programme cette semaine, bégaiement et confiance en soi. Bonjour Denis.
Dorothée Barbaz sur France Inter. La tulipe, mon petit loup.
Bonjour Dorothée. Et oui, nous débutons par un album très fort, « Je parle comme une rivière » de Jordan Scott Sidney Smith, traduit par Shaïne Kassim, aux éditions Didier Jeunesse, à partir de 5 ans et vraiment sans limite.
C'est pour le pain de l'autre côté de la fenêtre. C'est pour le corbeau croassant sur sa branche. C'est pour la lune qui disparaît quand vient le matin.
C'est l'histoire bouleversante d'un enfant timide, entouré de mots qui racontent sa difficulté immense de ne pas pouvoir les dire, qui reste coincé dans sa gorge.
Le p-p-p du pain pousse dans ma bouche et s'entortille autour de ma langue.
Des larmes de lune se glissent sur ses lèvres en une longue plainte.
À l'école, je me cache au fond de la classe. J'espère très fort que je n'aurai pas à parler.
Certaines images, floutées, distanciées, donc traduisent l'enfermement, la solitude par rapport aux autres. Et les autres enfants, bon, n'ont pas de jugement, mais se moquent quand même.
Ils n'entendent pas le corbeau croasser dans ma gorge.
C'est juste qu'ils ne comprennent pas ce handicap invisible aux yeux des autres.
Tout ce qu'ils entendent, c'est que je ne parle pas comme eux. Ils voient mon visage qui grimace et je ne peux pas cacher ma peur.
Une bouche pleine à craquer de mots qu'il ne peut pas prononcer. Alors un jour, son père aimant et attentif vient le chercher et l'emmène à la rivière.
C'est bon d'être au calme et tout seul avec papa. Il voit bien que je suis triste.
Il le serre contre lui et lui montre la rivière. Tu vois l'eau qui bouge? Eh bien, c'est comme ça que tu parles. Et l'enfant regarde l'eau qui bouillonne, tournoie, gicle, se brise.
Plus tard, il faudra que je me souvienne de ces mots pour ne pas pleurer. Je parle comme une rivière. Je penserai à la rivière qui bégaye comme moi, qui est belle, luisante et aussi tranquille.
Un matin à l'école, il a parlé devant les autres de son endroit préféré, la rivière. Il a pensé, les mots se sont faits un peu plus fluides. Alors, idée merveilleuse du père qui va le soulager, car bien sûr elle est belle, il nage avec bonheur dans cette rivière qui bégaye ses eaux, eh oui, comme lui finalement.
Oui Denis, mais on n'est pas dans un livre qu'on va qualifier de médicament.
Et surtout pas, qui sont en général sans créativité, mais c'est un vrai album au texte fin, sensitif, poétique, qui raconte d'ailleurs l'histoire de l'auteur, avec des aquarelles douces qui amplifient la voix, la solitude, la tristesse de cet enfant et sa reconstruction. Je parle comme une rivière, Jordan Scott, Sidney Smith, édition Didier Jeunesse, c'est à partir de 5 ans et je vous le disais vraiment sans limite. Quête moche de Antoine Dole et Magali Le Huche, édition Actes Sud Junior, à partir de 4 ans jusqu'à 7 ans environ. Quand sonne l'heure de la récré, c'est pas toujours synonyme d'amusement.
À l'école, on dit que Kate est la petite fille la plus moche.
Elle est confrontée à une bêtise, une méchanceté déplorable.
Les andouilles de sa classe l'ont surnommée Kate Moche.
Du coup, Kate n'a pas beaucoup d'amis.
Ils se moquent d'elle et disent qu'elle n'est pas maligne, voire un peu maladroite. Et ils ne veulent pas d'elle comme copine.
Pourtant, Kate s'en moque. Elle garde le sourire, leurs paroles glissent sur elle sans jamais l'atteindre.
Pour elle, il y a mille autres façons dont on pourrait la décrire. Car ce n'est pas ce qu'elle voit quand elle se regarde dans le miroir.
Et vous savez ce qu'elle voit ? Eh ben, elle voit une reine des mathématiques.
Une scientifique expérimentée, une doctoresse dévouée, une astronaute adroite.
Et aussi une petite fille qui ne manque pas d'audace.
Une ninja acrobate, une exploratrice courageuse, une domptrice de fauves.
Et dont la créativité est synonyme de merveille.
Une peintre visionnaire, une grande chef cuisinière.
Bref, rien ne peut l'arrêter. Kate est pleine de vie et d'ambition que personne ne lui enlèvera.
Un jour, Kate aura une rue à son nom. On parlera d'elle dans les livres d'histoire. Comme on le fait pour Simone Veil, Simone Signoret ou Simone de Beauvoir.
Kate a confiance en elle et c'est ça, bien sûr, qui compte.
La vie, quand on est Kate Moche, c'est beaucoup plus marrant.
Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais le devrait-on ? C'est ce qu'on pourrait se demander après la lecture donc, de ce réjouissant et enthousiaste Kate Moche, signé Antoine Daule et Magali Lehuche. Dans cet album qui laisse la place aux rêves et aux ambitions, il est aussi question d'aborder l'air de rien, la dureté dont les enfants peuvent parfois faire preuve entre eux. Mais grâce à l'alchimie de la littérature jeunesse, la méchanceté est ici le matériau qui sert surtout un propos sur la confiance. Aux éditions Actes Sud Junior, Kate Moche, à partir, on va dire, de 4 ans. Merci à Christophe Invier pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures et une bonne suite d'émissions. À vous, Dorothée.
Merci beaucoup, Denis Chessou. Et je précise qu'Antoine Daule, le co-auteur de ce livre délicieux Kate Moche, est aussi le créateur de Mortel Adèle, cette héroïne de BD qui a un succès fou auprès des 7-10 ans. Laurent Tillon fait la hola pour Mortel Adèle. Kate Moche est un peu la petite sœur de Mortel Adèle, puisque c'est un album à lire aux plus petits. Clémentine Sourdet, Laurent Tillon, invité de Barbatruc, vous avez chanté les louanges de l'automne et j'ai à présent une dernière question à vous poser. Question rituelle dans cette émission. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance, Laurent Tillon.
Moi, c'était l'odeur de la ferme d'élevage de mes grands-parents, où j'allais chaque mois et il y a des odeurs particulières qui mêlent à la fois des odeurs d'animaux, à la fois des odeurs de végétation, notamment qui se décompose un tout petit peu, puis le crottin, les bouses de vache, et tout ça, c'est un mélange de tout un tas d'odeurs qui aurait pu être désagréable pour certaines d'entre elles, mais toutes mélangées. Mmh. Et ben, à chaque fois que je m'approche d'une ferme, vous pouvez être sûr que ça me rappelle que des bons souvenirs.
Et ça sent l'enfance.
Et ça sent l'enfance.
Et vous, Clémentine Sourdet, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Je sais pas, j'en ai deux. Ça me fait sourire. J'en ai deux qui me viennent en tête. Donc c'est l'odeur de l'été déjà, parce que moi j'ai l'impression, je suis pas scientifique, hein, mais que du coup, par exemple dans la période hivernale, les odeurs elles sont un peu éteintes. C'est dès qu'il commence à refaire chaud, il y a plein d'odeurs qui resurgissent. Donc c'est une odeur de voyage qui me projette. En Turquie, on avait fait un très grand voyage avec ma famille, un voyage itinérant. Et vraiment, c'est des odeurs d'épices, de nourriture, ouais, d'abondance, de joie. Il y a ça et c'est vraiment nul. Mais il y en a une autre, donc c'est l'odeur de la sueur. Et pour moi, c'était l'odeur de l'amour, c'était l'odeur de ma maman qui va détester, je pense, que tu parles de ça.
Elle est ravie que vous parliez de sa transpiration sur France Inter.
Ça sentait très bon. Ouais. Et en grandissant, moi, j'ai eu un autre point de vue sur l'odeur de la sueur.
Voilà, on met ces odeurs sous cloche pour notre inventaire olfactif de l'enfance. La sueur d'une maman, un été en Turquie, et la ferme avec son cortège d'odeurs de crottin. Être un chêne sous l'écorce de Quercus de Laurent Tillon est à lire chez Actes Sud. Ça, c'est plutôt pour les grandes personnes. Et pour les enfants, je recommande les ouvrages de Clémentine Sourdet, notamment ceux consacrés aux saisons, tout l'automne, tout l'hiver, tout le printemps, tout l'été, co-signé avec Charlène Picard, édité au Seuil Jeunesse. Vous avez aussi publié des cahiers d'activités, Clémentine Sourdet. Ça s'appelle Faune et Flore de l'automne, des coloriages, des dessins aux éditions Amatera. En attendant la sortie en novembre de ce nouveau livre, Petit bijou de pop-up, un livre qui se déploie en relief, La Grande Escapade. C'est une randonnée grandeur nature, on en reparlera évidemment à sa sortie. Grand merci à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup, Dorothée.
Bonne journée et à bientôt sur France Inter.